Merci beaucoup, merci Salvador, merci chers collègues et chers étudiants de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir intervenir pour vous présenter l'intitulé qui s'affiche et qui porte le titre « Guerre, économie et société pour une économie politique solidaire ». Alors ce titre, il intrigue. C'est un titre qui nous a paru important parce que je dirais qu'il est le fruit, tout d'abord, d'une rencontre. C'est le fruit d'une rencontre entre un économiste et une sociologue. C'est le fruit aussi d'une rencontre entre un chercheur algérien qui est Hassen Amarouche et qui est de l'université de Bouira et qui n'a pas pu venir. Et moi-même qui suis à l'université de Haute-Alsace. Nous avons eu l'occasion de nous connaître, d'ailleurs, à l'occasion de séminaires qui se sont tenus, notamment au Sénégal, où nous avons aussi rencontré Salvador Juan, qui est ici. Pour dire que guerre, économie et société, ceci n'évoque pas une recherche, disons, que j'ai entreprise depuis longtemps. Elle a été entreprise à la faveur d'une rencontre, mais aussi d'un défi. Ce défi, c'est déjà de coopérer et de pouvoir s'accorder pour construire ensemble des éléments pour une approche théorique de cette question qui relie donc guerre, économie et société, et surtout d'aller au-delà et de voir, et ça a été à la suggestion donc de mon collègue Hassen Amarouche, son souhait, ça a été d'aller vers l'économie sociale et solidaire à partir de son propos d'économiste et de la guerre. Donc, je lui dois, en fait, cette initiative qui m'a valu, c'est vrai, d'aller un peu plus loin. Et donc, pour vous dire aussi que ce travail, c'est une réflexion à deux, et c'est une réflexion donc, qui est croisée, et surtout, c'est aussi un exercice inhabituel, à la fois pour, une sociologue, mais aussi par rapport à la question de la guerre, qui n'est pas dans mon champ de recherche, qui n'est pas un objet de recherche que j'ai travaillé jusque-là. En revanche, nous allons voir ensemble comment la sociologie va s'emparer de la question que je vais traiter, notamment une entrée à travers, effectivement, la compréhension et la manière de poser la guerre comme objet de recherche. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec Hassen Amarouche, ça a été des travaux qui ont permis d'alimenter ce travail de son côté, puisqu'il a publié Paradis versus Enfer, le développement durable à l'épreuve des créations destructrices de l'homme. Le propos de Hassen Amarouche est le suivant. C'est un propos qui se rapporte au fait que les sciences économiques n'ont pas intégré la guerre dans leurs questions de recherche. Au contraire, les sciences économiques sont construites en sorte que cette question de la guerre, sorte de, des préoccupations qui sont les leurs, et on va expliquer ici pourquoi. Donc, l'épreuve des créations destructrices, c'est de montrer effectivement que ces créations destructrices sont le résultat d'un cadre épistémologique qui préside aux sciences économiques, orthodoxes, conventionnelles, et le résultat également d'une volonté d'éviter et de considérer que, en fait, nous allons le voir, la guerre, finalement, est avant tout un nouveau secteur d'emploi. Donc, je commencerai mon propos, tout d'abord en passant assez rapidement sur la partie économique qui est nécessaire, me semble-t-il, pour en venir à ce que je développerai bien plus, à savoir la sociologie, bien sûr. Donc, dans cette partie, la guerre et dans ses relations à l'économie et à la politique, rappelons que la guerre est un fait de société, que ces guerres, le plus souvent, ont été des guerres qui ont porté sur l'appropriation des ressources. Mais même lorsque l'appropriation des ressources n'était plus un enjeu premier, eh bien, c'est toujours le partage et l'accès aux ressources qui reste le motif au nom duquel eh bien, on va aussi justifier, eh bien, par sécurité, je dirais, les mesures préventives qui entretiennent l'idée d'un conflit pour l'accès légitime aux ressources par la violence. Donc, ce que montre ici Hassan Amarouche, c'est principalement l'idée que la guerre intervient comme un argument économique dans les doctrines économiques et que, en fait, elle est petit à petit, surtout, elle met en relation la guerre et l'économie. Mais ce n'est pas, disons, dans le sens que nous allons aborder maintenant, à savoir comment l'économie génère la guerre. Évidemment, ceci, je vais en dire que l'essentiel. Mais c'est de voir comment, dans cette approche de mise en relation entre économie et guerre, il y a des effets pervers. Ces effets pervers, ne sont pas saisis et traités par les économistes. Et la guerre, c'est la question que pose Amarouche, la guerre est-elle une destruction intentionnelle des ressources si les sciences économiques ne prennent pas en compte eh bien, l'éventualité et l'hypothèse de la guerre dans leur argument théorique. Alors, on va encore regarder ça. Pour dire que cette science économique qui ne prend pas en considération la guerre, elle part de l'idée il y a des formes d'économie de gaspillage dont la guerre fait partie, et que ce raisonnement préside à une forme universelle d'économie où, cette économie de gaspillage est en fait aussi le résultat d'un capitalisme qui se déploie sans trop prendre en compte les effets de destruction de la guerre. Donc, ici, notre idée avec Hassan Amarouche, c'est de poser le point de vue suivant, c'est qu'il y a une alternative à la science économique dominante. Cette alternative est fondée sur la globalité des faits humains et l'économie sociale et solidaire, du coup, est posée comme une alternative possible. C'est une question que je vais partager avec vous, considérant que sur la partie économique, qui est assez brève de mon point de vue, Hassan... Ça a bougé, là ? Voilà. Sur cette partie économique, c'est un écheveau de relations inextricables. Ceci est un point de vue qui s'appuie sur le fait qu'il y a des lois internes, à l'économie, qui la pousse à trouver dans ses propres ressorts une manière de développer une dynamique d'accumulation systémique. Cette accumulation systémique, elle va bien sûr s'appuyer sur un capitalisme et une science économique qui va se donner pour objet d'étudier la dynamique d'accumulation systémique. Et dans ce projet théorique, il n'y a pas de place pour la guerre. La guerre... Donc fait l'objet d'un déni de réalité, et ceci parce que le cadre épistémologique sur lequel va s'appuyer la science économique, dominante, est principalement un cadre économique qui met l'accent sur l'homo economicus, individualiste et coupé de son milieu, avec également des comportements qui sont très vite l'objet de formes de rationalisation, dont je vous parlerai encore après, ce qui conduit à en faire un personnage donc extrêmement, limité et réducteur dans ses possibilités. Ceci pour dire que cette dynamique d'accumulation capitaliste va se poursuivre de manière plus effrénée à partir du XXIe siècle. Et ceci va brouiller les rapports déjà complexes entre guerre, économie et politique. Et au XXIe siècle, disons, on peut noter rapidement trois facteurs qui sont pris en compte par mon collègue économiste. C'est d'une part l'interdépendance accrue avec la mondialisation entre les économies et la globalisation financière. Cette interdépendance accrue, elle ne va pas, contrairement là aussi à une hypothèse qui a été fondée pendant longtemps, voir jaillir des valeurs universalistes partagées par des États responsables. Au contraire, et nous le voyons sous nos yeux aujourd'hui dans les rivalités commerciales qu'il y a entre les États-Unis, la Chine et d'autres pays, eh bien, au contraire, ce sont des réactions ou ce sont des sanctions commerciales, ce sont aussi davantage de processus qui vont surenchérir sur les capacités justement de puissance des pays producteurs d'armes et qui vont voir dans ces tensions eh bien, l'occasion de déployer de nouveaux marchés. Donc l'interdépendance des économies n'a pas spontanément produit plus de solidarité entre des États qui se sentiraient plus interdépendants, bien au contraire. Ceci a été aussi accéléré, deuxième facteur, par une croissance importante des technologies que nous connaissons. Et ceci, bah, concrètement, ça veut dire plus de productivité. Plus de productivité et ceci conduit encore davantage à réduire la place donnée à la dimension humaine, collective, sociale, comme on le sait. Troisième paramètre, il est à discuter, c'est les effets aussi du vieillissement qui vont effectivement déstabiliser également les rapports entre les générations et ceci va restructurer les systèmes nationaux productifs pour la partie économique. Ce sont les facteurs qui président et donc à cette réorientation vers l'investissement vers les industries militaires, et notamment par les pays producteurs d'armes, que sont les États-Unis, la Chine et la France. Et ceci pour dire que, également, en fait, les discours des économistes se situent sur un registre de positionnement en termes à la fois d'emploi, mais aussi de marché à occuper pour conserver une position dominante, il faut coûte que coûte anticiper sur la prévision d'investissement à venir, investissement militaire de pays qui sont potentiellement des ennemis et qui, à ce moment-là, les économistes qui sont cités là, il n'y a guère que Stiglitz, qui est un économiste hétérodoxe, et qui, lui, va formuler des critiques en dénonçant justement ce chantage par l'emploi interne. J'en finis avec une partie économique dont vous m'excuserez, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense que c'était quand même important de parler de cela ici. Ceci pour dire que les tensions internationales qui s'expriment se traduisent par une fragmentation des marchés, une fragmentation aussi des formes de solidarité ou de partenariats qui ont présidé pendant bien longtemps, y compris dans des accords commerciaux. Et ceci va se traduire par des guerres régionales qui sont conduites par les importateurs d'armes et des acteurs extra-régionaux, j'ai nommé les exportateurs d'armes. Et vous savez que la France est bien placée dans ce domaine. Donc, on voit bien que dans cette course à l'armement, c'est le souci pour les pays de ne pas être déclassés militairement face à des innovations. Et puis, c'est de pallier aux carences d'une économie civile qui est en train de chercher une nouvelle forme de croissance et de création d'emplois. Donc, on sait aujourd'hui que ces guerres régionales, elles vont en fait de plus en plus être très féroces et concurrentielles. et surtout par rapport aux monopoles qui sont en jeu dans les secteurs industriels, justement, de l'armement. Et donc, les expressions de ces tensions se traduisent en termes de sanctions économiques, d'usage extraterritorial du droit, alors que en interne, si je prends les États-Unis, eh bien les formes de protectionnisme sont appliquées pour les États-Unis, et donc vraiment d'une conflictualité latente et un terrain d'affrontement que bien des auteurs ont déjà développé dans la presse, mais aussi par des ouvrages qu'on peut citer. Je voudrais passer, si vous me permettez, un petit peu vite là-dessus, parce que c'est vrai que je voulais vous parler de la partie de mon collègue, mais en même temps, n'étant pas l'auteur, je suis un peu parfois embarrassée, ce qui est un peu normal. Mais voilà, je voudrais surtout souligner que finalement, on s'aperçoit avec cette relation difficile entre économie et guerre, que s'est construite vraiment une économie politique de la guerre. Cette économie politique de la guerre, eh bien, elle déroge au paradigme de la science économique orthodoxe. Elle enfreint finalement les limites qui sont posées, hein, notamment pour conduire à la coopération et à la paix. Et qu'il est urgent pour nous que ce soit des paradigmes d'une autre économie, une économie politique solidaire, une économie politique solidaire qui vient en rupture avec ces paradigmes d'une économie orthodoxe pour renouer avec des pratiques sociales et des considérations donc de la dimension humaine et solidaire. Alors, pour une économie politique plus solidaire, cette économie politique plus solidaire, tout d'abord, on peut souligner que cette économie politique plus solidaire, elle doit d'abord rompre avec le mythe de l'homo economicus. Cet homo economicus dont j'ai déjà un peu parlé, en fait, il est principalement animé par un postulat, hein, c'est que la compétition l'emporte sur la coopération. Cette compétition l'emporte sur la coopération. Ceci se traduit par effectivement tout un discours qui, on va retrouver, un discours qui cherche à stimuler et à encourager cette lutte entre des compétiteurs, hein, entre des pays, entre des organisations, entre même des associations. Ensuite, on peut dire aussi que cet homo economicus ne tient pas compte du tout, je pense que vous le savez, de la dimension collective. Une dimension collective et qui n'est pas que celle du groupe, mais qui est aussi celle qui concerne les liens, les attachements et les manières de comprendre le milieu dans lequel les individus évoluent. On peut citer en 1987 Margaret Thatcher, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait dit que la société, ça n'existe plus. De quoi est-ce qu'on parle, hein ? Donc, on a un tissu de idéologique et de discours qui étaye à la fin des années 80 toute une approche qui concourt en amont, la production de représentation des individus, où la dimension de lien social, qui est d'abord constitutive du politique, mais cette dimension de lien social, elle est absente et elle va se traduire par une manière de penser la guerre qui est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, par rapport à... Donc ma partie, plus tard. Ah, on est là. Donc, je voudrais en venir à, justement, l'économie sociale et solidaire. Cette économie sociale et solidaire, on va progressivement, je dirais, la présenter et la poser pour répondre à une question qui est une question tout à fait inattendue et nouvelle. C'est comment l'économie sociale et solidaire serait-elle en mesure de répondre justement aux défis que posent les questions d'économie de la guerre. Et deuxièmement, je dirais que la première question, enfin la deuxième question que je voudrais traiter, c'est la question aussi de la sociologie et comment est-ce que la sociologie aborde la question de la guerre. Et cette sociologie, eh bien, je suis un peu embarrassée parce que je ne vois pas ce que vous avez sous les yeux. Mais... Alors, on va y arriver. C'est là. Donc, cette économie politique solidaire, qu'est-ce que c'est ? D'abord, l'économie sociale et solidaire, on peut la définir comme un ensemble de pratiques sociales alternatives, qui sont des pratiques qui vont chercher par une rupture dans la manière de penser, que ce soit les individus, les communautés ou les sociétés, la relation entre les personnes et le milieu, les cultures, mais aussi les valeurs. L'économie sociale et solidaire est une économie qui est également bâtie sur le pluralisme, la démocratie, on va le voir, le pluralisme et une démocratie qui, justement, réintègre la dimension sociétale, culturelle dans l'économie. Donc, les échanges qu'on va trouver dans les économies, dans l'économie sociale et solidaire, ne sont pas que des échanges marchands. Et l'économie sociale et solidaire n'est pas qu'un secteur d'activité. Donc, je dirais que c'est une économie politique parce qu'elle mobilise, elle convoque des pratiques émancipatrices auxquelles concourt l'action auxquelles participent les individus, que ce soit dans le domaine de l'habitat, de la consommation, du travail. On pourra citer des exemples si vous le voulez. Je voudrais tout d'abord également rappeler, puisque voilà, c'est le moment, cette économie sociale et solidaire, sans doute, là aussi, c'est ce que vous savez, c'est une économie qui mobilise des principes fondateurs qui sont explicites. Ces principes, on va les retrouver dans la partie qui va suivre, notamment solidarité, entraide, coopération. Et donc, ces manières de penser, eh bien, il nous faut les articuler à une manière, justement, de nous, je dirais, de faire un choix, de faire une rupture avec les catégories d'une économie plus orthodoxe. Alors, ce qui veut dire que nous allons poser l'économie sociale et solidaire comme étant innovante, une créativité en termes socio-économiques, en termes écologiques, en termes culturels. Et notre question maintenant, ça va être de savoir comment est-elle en mesure de concevoir, de penser, d'agir dans un monde, pour un monde, pardon, non violent, un monde coopératif, un monde agoniste. Quelles sont justement les relations d'échange qui sont susceptibles de porter vers une coopération agoniste, une coopération par des relations agonistes, agonistes signifiant eh bien, des relations où, à la différence des relations antagonistes qui concernent des relations à des ennemis et qui vont jusqu'à la lutte à mort, les relations agonistes sont des relations qui sont construites avec des adversaires, mais qui deviennent des partenaires dans une coopération à négocier. Donc des relations agonistes qui se conjuguent, comme vous l'avez compris, avec une forme de coopération. Donc on va s'intéresser aux outils et aux concepts mais aussi à des savoirs pratiques qui permettent de faire face, je dirais, aux antagonismes, les antagonismes qui se dessinent et qui se traduisent de plus en plus par eh bien, des sanctions économiques, la remise en question des accords entre des pays, hein, accords qui concernent non seulement les relations économiques, mais aussi les relations politiques, les relations culturelles. Donc, comment est-ce que l'économie sociale et solidaire est capable de produire ces outils et ces concepts pour, en fait, proposer une autre manière et de penser, mais aussi d'agir de façon non violente pour faire face aux défis de nos sociétés. Alors, on en est où là ? Oui, on est un peu trop tôt là. Alors, je suis toujours sur le point économie politique solidaire. Le premier point que je voudrais traiter, c'est le, qui n'est pas indiqué là, c'est en fait la modernité radicale dans laquelle se placent nos sociétés contemporaines et la présence d'une économie de guerre. Voyons ce qu'en disent les sciences sociales. Depuis les années 2000, on a eu des sociologues que vous connaissez là aussi. Je pense à Pierre Bourdieu, je pense également à, par exemple, Zygmunt Bauman, qui ont parlé, pour Bauman, de mondialisation négative. Hein, modernité radicale, et pour Pierre Bourdieu, il s'agit, voilà, en fait, d'une économie monde comme, où les échanges commerciaux renvoient à un modèle néolibéral avec un régime qui est celui d'une économie de guerre. L'économie de guerre est une économie violente, une économie qui ne transige pas, une économie où il y a des vraies guerres commerciales, des chantages, et un face-à-face entre les plus forts et les plus faibles. Une mondialisation donc qualifiée de négative par Zygmunt Bauman, et qui parle lui aussi de l'élimination, de l'aliénation par une hégémonie néolibérale, des logiques guerrières que reprend aussi Patrick Vivray, peut-être que vous connaissez son nom, qui voit dans l'expression, dans cette hégémonie, d'un fondamentalisme, je cite, marchand. Donc, on voit que le vocabulaire des sociologues va emprunter des termes qui reflètent effectivement un changement de régime dans les relations diplomatiques, les relations économiques, les relations sociales. Et je pense que cette industrialisation de l'armement, que j'ai rapidement cité tout à l'heure, renvoie à une machine de guerre qui signifie des échanges marchands, des échanges marchands dans un contexte où voilà, tout n'est pas permis pour le sociologue Max Weber. Max Weber considère que justement les échanges marchands ne sont pas débarrassés de règles et de contraintes, d'exigences, même éthiques, parce que les marchés sont limités par des tabous sacrés, ne pas tuer l'autre, par exemple, ne pas avoir des desseins qui sont inavouables, ne pas respecter la religion ou la culture de l'autre. Et donc, si on entend et si on relit Max Weber, on comprend combien il a considéré qu'il était important de considérer que l'activité marchande était une activité qui était extrêmement séquente et susceptible de dégénérer parce que, si je pense à l'armement, eh bien, ce sont effectivement des objectifs qui sont inavouables. Hein. Donc, on reviendra à Max Weber dans un instant. La deuxième chose qui arrive aujourd'hui aussi, c'est que nous avons dans le contexte actuel une vraie radicalité qui s'exprime dans les échanges commerciaux avec des chantages et qui montre que, en particulier, Eh bien, il y a une remise en question de règles qui ont pendant longtemps présidé à l'organisation pacifique des relations commerciales, et que on en a fait des théories que cite par exemple Michel Callon dans son ouvrage récent sur l'emprise du marché, des marchés plutôt, l'emprise des marchés. Michel Callon fait état d'une théorie qu'il a donc mise en lumière et qui est utilisée notamment dans la science économique orthodoxe, théorie des anticipations rationnelles. Cette théorie des anticipations rationnelles, eh bien, forcément, s'appuie sur l'homo economicus, mais elle va bien au-delà. Elle met dans des formules très rationnelles les comportements sociaux. Elle recourt à des variables que Callon appelle des variables cachées. Il en cite l'une ou l'autre, je vous en donne une. C'est l'aversion au risque. L'aversion au risque des agents économiques, selon la théorie néolibérale. En fait, cette aversion au risque conduit non pas à poser la question de la guerre comme une agression, mais au contraire, à considérer que l'aversion au risque, elle peut être traitée par une gestion de risque, comme l'a montré Denis Duclos il y a déjà pas mal d'années. Ceci consiste à dire quoi ? C'est-à-dire qu'on reporte la responsabilité et les risques sur celui qui se situe à côté ou en dessous de nous, et qui est donc celui qui doit supporter les conséquences des risques qui sont encourus. Donc, comme s'il suffisait de déplacer la question des risques, là je ne pense pas seulement à le risque de guerre, je pense aussi à des risques de produits toxiques. Cette face cachée et invisible des marchés commence, bien sûr aujourd'hui, on le voit bien, progressivement à se dévoiler. On essaie de gérer par une économie vertueuse qu'on appelle l'économie verte, mais cette économie verte, souvent, elle propose des innovations de croissance sans changer de modèle économique. Donc elle reproduit le modèle économique sur la base néolibérale, et ça ne conduit pas du tout à changer de registre et de logique, comme on l'a cité avant, la fameuse dynamique systémique d'accumulation. Donc, les innovations de croissance, c'est juste opposé à des innovations de rupture, et les innovations de rupture, nous allons en parler dans la partie qui suit encore. Alors, je voudrais aussi souligner autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un contexte, je vous pose un peu des éléments de contexte, des contextes qui montrent combien une phrase que j'ai retenue de Lévi-Strauss qui est « les accords commerciaux représentent des guerres potentielles pacifiquement résolues ». Et les guerres sont l'issue de transactions malheureuses. Transactions malheureuses, donc, qui ont échoué. Les accords commerciaux sont nombreux et ils ont été construits progressivement avec le temps. Et on voit que derrière les accords commerciaux, il n'y a pas que la signature de, un contrat de vente. C'est aussi, dans les accords commerciaux, comme l'écrit Lévi-Strauss, transactions qui sont présentes pour pacifier des relations potentiellement, agressives, qui peuvent être agressives. Ainsi, on peut dire qu'aujourd'hui, l'hypothèse que j'aurais posée aussi, c'est celle justement de ces transactions sociales qui sont sous-tendues derrière les accords commerciaux, qui sont ébranlées par les joutes et les rivalités que mettent en scène notamment les États-Unis. Et en France, on a aussi, je voudrais aussi parler des injustices environnementales qui aujourd'hui contribuent là aussi à renforcer finalement ce contrat social très fragile et qui aujourd'hui fait défaut. Pour ceux qui sont allés dans la rue il y a un an, je parle des gilets jaunes clairement. c'est une mobilisation qui atteste d'une colère populaire par rapport, eh bien, par rapport à des formes de relations au milieu je dirais naturel, au milieu social, à la également à toutes les valeurs culturelles à travers lesquelles eh bien, les individus, les communautés ont réussi pendant des années à eh bien, entretenir des relations qui sont des relations productrices de signification et qui se retrouvent donc, je dirais, remises en question à travers une forme d'économie, une économie qui creuse les inégalités. Donc, la première hypothèse que je voudrais poser, c'est le tabou de l'explicitation. Le tabou de l'explicitation, c'est une expression de Pierre Bourdieu dans Raison pratique. Le tabou de l'explicitation, c'est de dire que les pratiques sociales, elles ont deux niveaux, le niveau objectif et le niveau subjectif. Et cette double vérité des pratiques, c'est en fait construite à partir justement du tabou qui est celui de ne pas dévoiler ce qui est, je dirais, peut-être bien refoulé, masqué, et le non-dit qui conduit aussi à l'acceptation de formes de contrat social, je dirais, à peine, disons, acceptable, mais qui dans lesquels les individus sont engagés. Hein. Alors, cette dimension symbolique, elle est présente dans l'échange social et c'est un point très important qui concerne tout particulièrement, bien sûr, l'économie sociale et solidaire qui s'en réclame. Nous allons voir après que cette dimension symbolique, elle renvoie aussi sur un échange entre égaux le plus souvent, mais les échanges entre inégaux existent aussi. C'est une vraie question qui pose justement la question des équivalences dans ces échanges. Et également les conditions de renouvellement d'une réciprocité qui sont remises en question. Bref, ce tabou de l'explicitation fait écho un peu à ce que je disais tout à l'heure avec Max Weber aussi. La deuxième hypothèse, c'est une hypothèse que j'ai empruntée à Ivan Milic, mais aussi à un économiste qui s'appelle Léopold Kohr. C'est une hypothèse qui concerne, je dirais, la proportionnalité, hein, c'est le terme utilisé par les auteurs. Cet économiste qu'est Léopold Kohr, qui a publié en 1957, montre l'importance de garder une proportionnalité dans tout ce qui est, je cite. Cette proportionnalité dans tout ce qui est, de prêter une attention à une forme d'équilibre. Le terme d'équilibre est très discutable, j'en conviens bien, mais une forme, disons, négociée, hein, de dimension d'une économie locale, d'une économie de proximité. Et cette idée est d'ailleurs reprise aussi par Ivan Illich. Vous connaissez peut-être son livre sur la convivialité. Et en tout cas, Ivan Illich développe l'idée suivante. Hein. Toute activité qui est outillée dépasse un certain seuil et conduit à s'écarter de sa finalité, et voire même à détruire la société. En d'autres termes, l'hôpital va être non pas un lieu qui fait que soigner, mais on y devient malade. Les écoles ne sont pas que des lieux qui vont évidemment former, mais c'est aussi des lieux de déclassement, etc. etc. Donc, l'hypothèse d'une certaine taille, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les historiens, mais aussi chez des sociologues de la vie. Je pense à Manuel Castells, qui a montré combien la révolution industrielle était à la portée de l'empire chinois. Et cet empire chinois a renoncé à passer cette révolution industrielle au motif que cette révolution allait déstructurer le tissu social, les relations sociales, les solidarités. Donc ça, c'est d'ailleurs repris dans un récent livre qui a été publié par Alain Beer aussi, qui reprend cette idée. Donc, je voudrais maintenant plus particulièrement passer à des prémices d'une sociologie critique de l'échange marchand. Cette sociologie critique de l'échange marchand, tout d'abord on va voir marché, échange et fraternité. Marché, échange et fraternité. Puis nous allons voir épistémologie de la guerre contre la subsistance. Et enfin, la fabrique du consentement marchand en question avec Michel Calon. Et c'est seulement après que nous parlerons des paradigmes de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il me paraît important de trouver aussi dans les travaux sociologiques les arguments, les outils théoriques qui nous permettent de construire une théorie qui puise dans la sociologie, j'irais, ces arguments pour l'économie sociale et solidaire. Donc, tout d'abord, dans les prémices d'une sociologie critique de l'échange marchand, je voudrais rappeler que l'activité économique, nous la considérons comme une activité, une instance d'échange, une instance de négociation et une instance également génératrice de liens sociaux, et que donc ce qui suppose bien entendu de remettre, d'avoir un regard critique sur un mode de domination qui a relégué ces éléments, disons, au rang de conservatisme, je voudrais en parler tout à l'heure, conservatisme, notamment des activités que l'on appelle de subsistance. Donc, ceci sera particulièrement visible à travers des comparaisons que je pourrais faire entre la France et puis l'économie de subsistance au Maghreb. Alors, pour la partie marché, échange et fraternité. Alors cette partie, je l'ai intitulée comme ça parce qu'on trouve la trame de cette analyse toujours chez Max Weber quand il nous parle de la communauté, entre guillemets, la communauté de marché. La communauté de marché est une communauté impersonnelle où ça veut dire qu'il n'y a aucune considération des personnes. Il n'y a que l'intérêt et la lutte pour son intérêt qui intervient dans l'échange des choses. Le développement du marché ne peut, chez Max Weber, être entravé par des liens qui découlent de l'ordre moral. Ce qui veut dire que le marché, en fait, va structurer un rapport nécessaire entre des frontières. Frontières entre là où on fait le marché, justement, qui se développe de façon, entre guillemets, libre, mais aussi, de l'autre côté, justement, le monde des communautés familiales, des clans, etc., qui structurent la vie personnelle des individus. Il ne peut y avoir de confusion. Chez Max Weber, il y a vraiment ce rapport nécessaire entre des frontières, hein, qui sont des lieux d'échange, et où, à mes yeux, se jouent aussi des transactions, et des frontières entre des communautés, mais qui sont des communautés radicalement opposées, hein, communauté de marché, communauté familiale, avec d'un côté, alors, une certaine morale marchande quand même, j'y viendrai encore, et une morale familiale dont je ne dirai pas grand-chose. Tout ceci pour dire que d'un côté, c'est la fraternité dans le milieu familial, dans la tradition familiale qui est posée, et de l'autre, le monde du marché, le monde des affaires, et le monde, je dirais, d'une certaine aussi, une certaine cruauté, c'est-à-dire tout est possible. C'est bien parce que tout est possible que les frontières sont nécessaires. Et Donc ici, on peut dire que le marché va instaurer donc une distance qui est nécessaire. Et cette distance, on va la voir dans les sociétés que l'on connaît, à savoir une distance entre ceux qui pratiquent le marché avec, on travaille avec de l'argent, il y a de la spéculation. Et on sait que les tabous dans le marché peuvent être brisés. Et ceci va caractériser des comportements qu'on a reliés d'un côté au catholicisme, aux protestants ou même à la communauté juive. Tout ceci pour dire que on sait, chez Max Weber, que la loi du marché, la loi du plus fort, peut violer les interdits. Les interdits, c'est quoi ? C'est les règles d'une humanité commune. La vie sociale, qui est centrée pour les individus sur la préservation d'une forme de fraternité, c'est juste l'inverse, et elle doit pouvoir se développer à l'abri des menaces du marché. Ce marché qui est le lieu de lutte fratricide pour l'intérêt. Donc, on ne négociera des accords marchands qu'avec des adversaires, et non pas ceux de ma famille, sauf à la mafia. Du coup, on comprend mieux la mafia. Mais on ne peut négocier des marchés qu'avec des partenaires extérieurs à sa propre communauté. Et ici, je voudrais souligner le fait qu'on a affaire à deux transactions sociales, ou plutôt une double transaction sociale. Transaction sociale, eh ben, c'est un paradigme qui permet de comprendre comment se construit un accord, se négocie un accord, c'est pas un consensus, en dépit des contradictions et des oppositions qui nous séparent. C'est de comprendre les contradictions pour, arriver à dégager une certaine négociation pour quelque chose qui pourrait être un accord possible, tacite, sur quelques éléments. Ça ne va pas résoudre les contradictions, mais ça va permettre d'aller un peu plus loin que si on était resté chacun sur ses intérêts stricts. Alors, la première transaction sociale, c'est justement, elle concerne la manière dont les solidarités vont s'organiser. Nous avons des règles dans chaque milieu, le milieu familial, le milieu marchand, et ces règles, chacun doit respecter les règles de l'autre pour séparer ces deux milieux. Il y a aussi une forme de loyauté entre partenaires, ce qui veut dire que là aussi, on ne va pas jouer le double jeu. En fait, on va arriver à résoudre, les difficultés, les désaccords par une forme d'accord marchand, disons. Chacun pense qu'il a obtenu de l'autre ce qu'il voulait, mais en réalité, c'est un accord qui est réversible et qui peut à tout moment, se ranimer. Donc, ces transactions sociales, c'est un accord qui permet une résolution temporaire, pacifiée des antagonismes. Chacun respecte les règles parce que, chacun y trouvera son compte, tout en ayant la satisfaction d'obtenir un accord sur, une vente. La deuxième transaction, c'est une transaction sur la distance. La distance nécessaire entre la vie personnelle, la vie familiale, la fraternité d'un côté, et de l'autre côté, c'est le monde des affaires. D'un côté, les transactions personnelles, de l'autre côté, le monde des affaires, des transactions marchandes. Ça ne veut pas dire que les transactions marchandes ne soient pas habitées par quelques règles éthiques, de base. Je dirais le respect d'autrui fait partie d'une intégrité qui est nécessaire, y compris sur le marché, parce que le marché est toujours compris comme une violence potentielle que chacun cherche à écarter. Donc, vous voyez bien, on travaille sur deux registres, ce qui se traduit aussi par une double négociation pour préserver des espaces de fraternité d'un côté et des espaces qui sont plus des espaces de rapports d'antagonisme et de rapports de force. Voilà. Donc, pour en finir juste sur ce point, c'est de dire aussi que j'ai eu le sentiment, en relisant Max Weber à ce sujet, le marché exerce un effet paradoxal sur les sociétés, à la fois volonté d'ouverture, mais aussi production de frontières. Mais surtout, c'est la socialité qui se transforme avec le marché. La socialité se transforme et qu'il y a une prise de conscience à vouloir préserver la fraternité du groupe, de la lutte à mort, ce qui impose un contrat moral, du moins dans la sphère qui n'est pas marchande. Ensuite, le point qui suit, c'est ce que j'ai appelé l'épistémologie, mais l'expression de la guerre contre la subsistance, c'est une expression que je reprends à deux auteurs qui sont Magie de Ramena et Jean Robert, paru, ça s'appelle La puissance des pauvres en 2008 chez Actes Sud. Alors, ces auteurs nous exposent comment un système de savoir charrié par la modernité, les technologies, je pense aussi à l'idéologie qui accompagne la modernité, est invasif et a colonisé par une certaine pénétration qu'ils appellent, je cite, insidieuse, les savoirs vernaculaires. C'est quelque chose qui est connu et qui a favorisé aussi la destruction des bases culturelles et sociales dans les communautés locales. Ils ont travaillé principalement en Amérique latine, dans les Andes. Ceci va se traduire aussi par des addictions à la consommation. Ici, on est dans un processus que décrivent... Ramena, c'est un diplomate d'organisation internationale qui a pas mal publié et qui travaille avec Jean Robert, qui est un psychosociologue, sociologue. En tout cas, ils étaient proches aussi de Ivan Illich. Pour dire que la guerre contre la subsistance, ça consiste à déraciner socialement et culturellement les savoirs vernaculaires et imposer par, disons ici, une rupture très forte, de nouvelles formes d'épistémée, une manière donc d'avoir de nouveaux savoirs, des savoirs, qui correspondent peut-être aussi à un modèle économique que nous avons critiqué tout à l'heure, celui qui feint de ne pas connaître la guerre et qui conduit ici à déstructurer et faire disparaître ces savoirs vernaculaires qui sont dévalorisés, dévalorisants. C'est quelque chose qu'on a connu aussi en France, entre les années 60 et 90, à un moment donné, dans le monde agricole. Ça a été quelque chose dont on pourra parler, si vous voulez, tout à l'heure. Donc, une domination des pauvres, disons les choses comme ça, qui se construit par des savoirs, qui s'affichent et qui produisent aussi un imaginaire d'une modernité qui va engloutir les savoirs anciens. Donc ici, on est dans une lutte qui conduit à déstructurer et faire disparaître des communautés de subsistance. Et c'est ce que les auteurs appellent la guerre contre la subsistance. Mais la subsistance n'est pas seulement survivre, c'est produire un système de pratiques sociales, produire également par de la culture des significations à ces pratiques. Et ces pratiques ne sont pas seulement, je dirais, des pratiques réparatrices d'une pauvreté. Ce sont des pratiques pour vivre dignement avec un modèle économique que, en fait, on a assez peu étudié dans nos classiques en économie. Ici, je dirais que cette lutte se poursuit notamment autour de ce qu'on appelle les communs, la terre, l'eau, la forêt, le patrimoine, les paysages, et surtout l'accès aux ressources. On revient à la question première de la guerre, l'accès aux ressources de subsistance des plus démunis. Donc, d'où justement ce propos que vont développer ces auteurs et qui va les conduire à parler d'une épistémée des pauvres. Pour eux, ces savoirs vernaculaires constituent le socle d'une puissance par un ensemble de connaissances pratiques, comme je dis à l'instant, une vision du monde, et qui renvoie aussi à une manière donc de vivre dignement sur leur territoire. Cette épistémologie, elle va aussi inspirer l'économie solidaire. Elle va inspirer l'économie solidaire qui puise une partie de ses fondements dans des savoirs vernaculaires, au sens d'Illich. Donc ici, il s'agit de savoirs qui ne sont pas sources de puissance, mais des savoirs qui renvoient à une forme de justesse, de dignité, des savoirs qui renvoient aussi à la reconnaissance des savoirs locaux et à l'intelligence pratique. Une intelligence pratique que Détienne et Vernant ont appelée la métis, qui existait déjà chez les Grecs. On passe à la fabrique du consentement marchand, toute autre sociologie avec Michel Calon. Là aussi, Michel Calon vient de publier un ouvrage qui s'appelle « L'emprise des marchés », hein, ou « Comment comprendre le fonctionnement des marchés pour mieux agir à la transformation ». Alors, chez Michel Calon, nous sommes, disons, dans une situation de société qui vivent des crises de confiance, et que cette crise de confiance, elle va se cristalliser, se greffer sur la question de comment obtenir le consentement marchand. Ce qui conduit à remettre en question la manière dont se construisent les contrats, se construisent les accords. Et cette crise de confiance va déstabiliser, hein, un modèle néolibéral des institutions financières. Ça va se traduire par le doute, des formes aussi de crispation. La faiblesse d'une forme de démocratie en économie. Hein. Qu'est-ce que c'est que la démocratie en économie? On va en parler avec l'ESS. La faiblesse d'une démocratie économique laisse la place vacante et surtout, en proie, les individus sont en proie au doute, un doute qui irrigue justement des sociétés où c'est le sentiment de défiance qui va prendre le dessus, hein, et qu'on va voir à travers d'autres expressions, mouvements xénophobes, racistes, sexistes, etc. Michel Calon y voit un processus de remise en question justement de ce qu'il appelle les agencements, et qu'on est obligé aujourd'hui de trouver de nouvelles formes d'agencement. Or, nous sommes dans une difficulté à fabriquer du consentement. Cette fabrication du consentement renvoie à une forme de crise de solidarité organique qui est celle qui a été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui est une solidarité qui a misé, qui s'est appuyée sur un socle, je dirais, de certitude quant aux compétences, quant aux formes de régulation, quant aux formes de réglementation et d'expertise. Hein. Donc, une confiance quasi, on peut dire, aveugle dans les technologies modernes. On peut dire qu'avec la mondialisation, ça, on peut en parler, mais ça va se traduire par une dégradation du terrain de la confiance. Et ceci est bien sûr renforcé aussi par l'instabilité, des marchés et des échanges internationaux. Alors pour Calon, il y a des interférences. Alors c'est un terme qu'il utilise beaucoup. Ces interférences sont possibles parce qu'il y a des préoccupations collectives qui vont s'exprimer. Et puis surtout, il y a l'obligation de réinventer de nouveaux cadres, de nouveaux outils. Et on va chercher ça dans les algorithmes. Dans les algorithmes, c'est... Voilà. Et c'est là qu'on retrouve la fameuse théorie des anticipations rationnelles dont je vous ai parlé rapidement. En fait, cette dynamique de renouvellement va chercher pour le marketing à créer des formes d'attachement nécessaires pour produire des... On peut appeler ça des tactiques pour obtenir du consentement à l'achat, etc. Il n'y a toujours pas de rupture avec les cadres qui renvoie notamment à l'innovation de croissance et à la dépendance, par la consommation. On peut dire que là, les entreprises vont chasser sur les terres d'une économie entre guillemets sociale et responsable pour renforcer une clientèle qui commence à douter et en tout cas s'attribuer les attributs de la vertu. Et donc pour Calon, lui aussi, ça, c'est pas quelque chose où les consommateurs sont dupes. Et clairement, les entreprises, ça traduit bien aussi aujourd'hui leur doute quant au fait que justement, sans lien social, point de commerce. Donc, relier les communautés de clients, ça fait partie un petit peu, c'est des choses qu'on peut étudier. Donc restaurer les liens, clairement, ça fait partie, je cite chez Calon, une ingénierie politique, il appelle ça des agencements marchands. Voilà. Donc on va chercher des liens dans une forme d'addiction supplétive. Alors je vais avancer un peu plus vite. En tout cas, voilà pour ces trois points et je continue. Avec une épistémée, on va enfin passer à l'ESS. Est-ce que je peux continuer ? Oui. Alors, voilà, on va y arriver. Alors, une épistémée de l'ESS comme rupture. Alors, l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas ici débattre, est-ce de l'économie sociale, de l'économie solidaire ? Je constitue cette expression qui regroupe toutes les familles, toutes les formes collective de mobilisation et d'expression pour répondre à un certain nombre de besoins sociaux et qui correspondent justement au principe que nous allons parcourir ici ensemble. L'économie sociale et solidaire est posée comme une rupture à travers un certain nombre de paradigmes. J'en ai proposé 5 que je vais exposer maintenant. Et avant de commencer, je voudrais souligner l'importance d'une conception globale, qui intègre la complexité. En effet, on peut dire que l'ESS, pour dire court, a accumulé des connaissances et des savoirs pratiques. Et progressivement, on peut dire aussi que la théorisation d'économie sociale de l'ESS a bénéficié de la production de savoirs qu'on a appelé hybrides, dont la légitimité est discutée, mais qui progresse compte tenu de la diversité des projets et des territoires. Moi, je vous propose ici une ébauche de paradigmes qui me semblent être des paradigmes fondamentaux de l'ESS. Si je dis une conception globale, c'est pour souligner le fait que on va aller au-delà des frontières disciplinaires, au-delà des frontières institutionnelles, et de
penser en fait à un corps de savoir qu'on peut mettre en commun. C'est bien une épistémée dont il s'agit ici. Et puis, c'est aussi des connaissances produites par des chercheurs, et ici, il s'agira d'épistémologie. Ça veut dire que l'ESS n'est pas seulement, une manière de théoriser une autre économie, c'est aussi une manière de pratiquer la recherche, une manière de pratiquer également une pédagogie qui interroge, c'est-à-dire qui remet dans une perspective critique les savoirs que l'on a. Voilà, bon, on va passer un peu vite là-dessus. En tout cas, parmi ces... On va commencer avec les principaux paradigmes. Le premier paradigme, c'est le paradigme de l'encastrement social. Dans ce paradigme de l'encastrement social, je vous renvoie bien sûr à Karl Polanyi. On peut dire ici que on a noté tout à l'heure cette emprise forte des marchés sur l'ensemble de nos activités et qui se traduit par une fragilisation des liens sociaux, rupture des liens sociaux, déracinement, des valeurs qui sont mises à mal. Et donc, comment dire, on ne peut pas penser, concevoir et réaliser des projets d'économie d'ESS sans passer par justement un processus qui s'intéresse à la manière dont se renouvellent les liens sociaux, la manière dont les pratiques aussi d'engagement sont des pratiques qui rétablissent une mise en lien par les relations et l'échange social. Donc, le travail de réencastrement a une portée globale sur la compréhension de l'ESS par son histoire, ses cultures, ses valeurs, mais aussi ce sont des expériences qui sont situées sur un territoire, ce qui signifie aussi que la dimension de proximité qu'on a évoquée un peu rapidement tout à l'heure, surtout avec Hitch, c'est une dimension qui est propice à justement voir ce renouvellement trouver des conditions favorables. Ensuite, on parle bien entendu ici beaucoup plus facilement d'une échelle où les économies dites de subsistance, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire, ces économies subsistance sont des économies qui sont localisées, encastrées socialement, ce qui signifie bien la capacité aussi, de réaliser des exigences qui peuvent être en tension. Hein. Exigences en tension, par exemple, entre préservation et développement. Préservation des ressources et développement des ressources, ou développement d'activité. Donc, le paradigme du réencastrement, bien sûr, on ne va que le poser là comme un principe. On peut l'étayer encore après. Le deuxième paradigme que je voudrais souligner, c'est le paradigme de la complexité et des tensions qui sont irréductibles pour l'ESS. Alors, une ambition forte de l'ESS, c'est de penser et de travailler justement la globalité, ce qui veut dire qu'on montre que tout est relié et interdépendant. Et le projet d'ESS est un projet de construction, d'invention, de combinaison nouvelle entre des principes et souvent des valeurs qui sont, elles aussi, peuvent être difficilement conciliables. Hein. Ça peut être le court terme, le long terme, ça peut être les intérêts matériels et immatériels, ça peut être les intérêts et les valeurs qui sont en opposition, ou encore des valeurs qui sont contradictoires. On est bien tenté de aussi s'en référer aux travaux d'Edgar Morin, pour souligner que dans cette approche de l'ESS comme globalité, on a un principe qui est appelé le principe dialogique, qui unit les deux faces d'une même réalité sur l'ESS, c'est l'unité et la diversité, par exemple. Donc, l'ESS, dans ce paradigme de la complexité, va tenter d'approcher justement les dynamiques de régénération de liens sociaux en particulier, en travaillant sur des oppositions, en travaillant sur des formes de tension entre le résultat immédiat et le résultat qui est un résultat qui va demander plus de temps. Et comme aujourd'hui, le temps, on va nous dire, ça nous coûte cher, vous devinez bien qu'on est dans une contradiction. Donc, ces contradictions, en fait, vont être également un terrain où vont se loger un certain nombre d'apprentissages, peut-être des interférences, comme Calon disait avant, des interférences. Comment dire, dans l'action, ce sont des formes de compromis. Je reprends une expression que j'aime bien, qui est de Maurice Blanc, compromis de coexistence. Ça veut dire que dans une entreprise qui est une coopérative, on va à la fois faire une activité de vente de biens et de services. Mais on a aussi à côté une activité qui est, mettons, une activité de formation et d'insertion. On a aussi une activité qui est celle de la vie de la coopérative, où il y a une dimension démocratique, un homme, une voix qui s'exerce et qui fait aussi qu'il y a un tout autre tissu social qui structure les relations entre les membres, hein, qui sont salariés, qui sont sociétaires. Donc, les principes de l'ESS sont des principes qui sont des principes permettant d'aller plus loin dans la transformation de cette coexistence. Cette coexistence est génératrice de convergence, génératrice de valeurs communes, génératrice, disons, d'une action qui est possible parce que le bien commun fait partie justement d'un accord qui est tacite. Le troisième paradigme, c'est le paradigme du pluralisme et de la démocratie. Ici, l'ESS est souvent reconnu par les institutions parce qu'elle est capable de concilier différents types d'échanges. Les échanges marchands, les échanges non marchands, les échanges non monétaires, des principes qui sont opposés, lucrativité, semi-lucrativité, gratuité. Donc, penser la complexité, je crois que c'est quelque chose que l'ESS est le laboratoire, un des laboratoires, disons, et que ceci donne aussi de la place au débat, aux avis, bien entendu, contradictoires, mais aussi au dialogue, aux interactions et à la création de liens d'interdépendance. Donc, on va voir un cadre à l'intérieur duquel va pouvoir fructifier, par exemple, l'idée d'acquérir une certaine autonomie et, en même temps, d'être beaucoup plus dans une prise de conscience d'interdépendance et de co-responsabilité, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas, travailler ensemble, vivre ensemble, expérimenter ne serait-ce qu'un projet ensemble quand on est étudiant, habiter ensemble dans un immeuble. Tous ces éléments constituent un terrain favorable qui appelle, bien entendu, des actions, des initiatives, ce n'est pas si spontané, mais en tout cas propice à une forme de coexistence qui traduit une capacité pratique des habitants ou des salariés à construire cet environnement commun.
Alors, l'ESS, eh bien, toujours sur le pluralisme et la démocratie, bien entendu, j'en ai déjà parlé, mais ici, c'est bien sûr le dialogue, c'est aussi la démocratie dans l'entreprise, et en particulier par la participation, pas seulement aux décisions, mais l'engagement aussi dans des tâches qui vont conduire les uns les autres à mieux à la fois être informés, formés, et prendre conscience de leur action à travers l'expérience individuelle aussi de la comment dire des multiples rôles que l'on tient. D'accord ? La complexité se traduit dans une forme de subjectivation chez les individus. Ils vont être à la fois salariés, ils vont être à la fois, entre guillemets, consommateurs, ils sont à la fois sociétaires, ils sont peut-être aussi gérants. À travers cette expérience sociale, c'est pas seulement, je dirais, une composition protéiforme de rôles différents, non. C'est aussi une manière de retrouver une unité à travers l'exercice plein d'une forme d'émancipation d'un rôle qu'ils ont, dans lequel on est trop souvent enfermé, qui traduit une division du travail étriquée. Donc, ok. Quatrième paradigme, le paradigme de l'échange social, du relationnel et de la réciprocité. Alors, ici, on est plutôt sur une première base, qui est une base anthropologique que nous devons à Marcel Mauss, mais aussi à Zimmel, où bien, on a le paradigme, bien sûr, du don. Ce paradigme du don on est considéré comme vraiment une structure matricielle des échanges humains. Il introduit une dynamique réciprocitaire. Et la base, c'est le lien social et la régénération du lien social. Edgar Morin vient de sortir un livre qui porte sur la fraternité. Et il souligne justement l'exigence de régénération du lien social par la fraternité. Et que sans régénération, la fraternité, c'est-à-dire, ne se génère pas spontanément. Hein ? Donc, il y a dans la dynamique réciprocitaire, une force sociale qui s'exerce, comme vous le savez, au fondement de nos sociétés. Le problème, c'est quand on a des dons qui sont invisibles. Or, de nombreux dons sont invisibles, et notamment des dons qui sont des dons transmis par les générations passées. Je pense au patrimoine. Je pense aussi à des dons invisibles comme les archives. Hein, il y a de nombreux dons qui font partie de communs qui sont invisibles et dont on ne prend pas conscience, sauf, et il sera trop tard, quand ils sont par contre menacés parce qu'un certain coût serait devenu insupportable et qu'ils vont être sacrifiés. Donc, l'échange social, le relationnel, c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, tout à fait central dans l'ESS. C'est vraiment ce qui régénère également l'ESS et le lien social. Et on a ce relationnel qui est constitutif, donc chez Elias aussi, d'autres sociologues, je ne vais pas les citer, vraiment des individus sociaux. Je vais un peu plus vite pour en finir là, dans les temps. Le cinquième paradigme et le dernier est le paradigme de l'émancipation et de la réflexivité. Je commencerai par la réflexivité. Ben, l'ESS ne se prescrit pas, l'ESS se construit et puis se vit, à quelles que soient, je dirais, les appartenances. Elle renvoie à une forme de mise à l'épreuve, qui permet de se forger des compétences. Et également une mise à l'épreuve qui conduit à pratiquer effectivement une forme de réflexivité, une remise en question par la mise à distance, bien sûr, par rapport à un certain nombre de certitudes, d'état, on peut dire état social. Et ceci conduit à une forme d'autonomie plus grande, ce qui fait partie du projet, je peux dire, de l'ESS, plus grande autonomie, mais attention, une autonomie qui est toujours articulée, une plus grande conscience des interdépendances. Donc ici, l'ESS signifie pour les individus de retrouver le fait que l'on a l'expérience, je dirais, d'avoir prise sur son existence, d'avoir aussi accès à des formes de savoir qui précisément sont des savoirs source d'émancipation. Ces savoirs ne sont pas seulement, ni seulement d'ailleurs, des savoirs académiques, c'est aussi des savoirs pratiques, dont l'ESS peut produire là aussi des formes de reconnaissance. Et par le travail, je pense, en sciences sociales, c'est quand même un vaste chantier. Donc, pour dire que cette émancipation, contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant un certain temps, n'est pas réservée aux élites. Cette émancipation, quand je parle de la réflexivité, cette réflexivité, il y a des travaux qui montrent combien elle est accessible et possible auprès de gens ordinaires, des personnes démunies, voire même exclues. Et je vous renvoie à Ramena et Robert, mais aussi à Margaret Archer, qui est une sociologue allemande, qui a travaillé là-dessus. Alors, voilà, pour terminer, l'ESS, une épistémée en rupture. Vous l'avez compris, l'ESS que je vous présente est une ESS qui instaure un nouveau régime de pratique, qui s'adosse à une épistémée en rupture, qui pose les jalons d'une pensée sociologique, plus globale aussi, qui va jusqu'à l'individu. Cette rupture se dessine à différentes échelles, on ne va pas le reprendre, on va parler de critique de la modernité, critique du cadre épistémique. Et puis on peut dire aussi que l'ESS, finalement, c'est une instance, je dirais, d'expérimentation, de transactions sociales, qui sont nécessaires, y compris dans la vie quotidienne, mais qui, en fait, soutiennent une coexistence par la coopération, coopération qui, précisément, est le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure, les conflits. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas une coopération conflictuelle, parce que ça, j'en ai pas suffisamment parlé. La coopération peut être, bien entendu, conflictuelle. Alors, ma petite conclusion. Alors, on a cru pendant longtemps que l'universalisation des valeurs éthiques par les droits de l'homme allait créer un horizon commun, un horizon humaniste partagé. Aujourd'hui, on peut dire que les guerres commerciales dessinent un monde qui est fragmenté, instable, sous la pression d'un marché déboussolé. Alors, j'ai réuni ici plusieurs lectures pour vous montrer que notre réflexion trouve des prolongements auprès de différents travaux. Je pense à la juriste qui est, je sais plus son prénom, Delmas Marty. Françoise, je crois, Delmas Marty, oui, qui est une juriste, qui dit que pour sortir de l'impasse, il est impossible, écrit-elle, d'imposer un universalisme uniforme. Tout à l'heure, on parlait de Calon. Calon en conclut dans son ouvrage. On ne peut pas trouver d'accord qui va réunir toutes les personnes concernées ou les intérêts de tous, les concerns, comme il dit. Donc, on est dans l'impossibilité structurelle d'un accord universel. Et donc, Michel Calon nous conseille de chercher, coûte que coûte, à mettre à distance, je dirais, ce qu'il appelle le pessimum, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on voudrait le plus fuir, hein, le désastre, etc. Ce pessimum, il faut le mettre à distance au maximum, et il pense que les sciences sociales doivent faire le tri, je cite, et constituer des alliances. Constituer des alliances pour... ces alliances sont des alliances pour créer des communautés, un pluralisme ordonné aussi. Vous voyez ici qu'on va retrouver les outils, les concepts qu'on a utilisés. Les systèmes d'interdépendance sont mis en avant par ces auteurs que je cite à l'instant, et qui relèvent la fécondité d'un outil théorique tel que celui de la coexistence, qui n'est pas la cohabitation, hein, la coexistence durable, viable, qui est nécessaire justement pour la conciliation qui sont des principes fondamentaux comme on le voit dans l'ESS, entre le lucratif, le non lucratif, les professionnels, les bénévoles, le privé, le public. On peut dire que, pour finir, l'ESS, pour nous, est une utopie concrète au sens de Lefebvre. C'est pas un idéal qu'on peut pas atteindre, c'est plutôt une action qui est guidée par une vision partagée et qui nous éclaire et qui produit aussi une créativité par la coopération et la confiance. Je vous remercie.